Travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Le phénomène du maccartisme, c'est au fond le phénomène de la lutte contre le communisme par des moyens de police. Mais ce qui est très curieux, c'est que c'est le phénomène de la lutte contre le communisme dans un pays où le parti communiste est quasi inexistant, où le communisme est probablement le plus faible par comparaison avec tous les pays de l'Europe, du monde occidental.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Nous voici à l'orée d'une élection présidentielle américaine qui nous montre un pays profondément divisé. Les observateurs les plus pessimistes évoquent une fracture assez grave pour mettre en danger la cohésion de la société. Or, si l'on cherche un précédent, on est conduit tout droit vers le moment du maccartisme. Nous allons considérer ce matin la façon dont un personnage qui fut un temps charismatique parvint à provoquer au début des années 1950 un traumatisme collectif. Joseph McCarthy, obscur sénateur du Wisconsin, acquit en peu de temps une célébrité sulfureuse en dénonçant, selon un complotisme obsessionnel, une prétendue invasion de taupes communistes qui, par leurs menées infâmes, auraient mis en péril la survie de la nation. Cette théorie fantasmatique fut répandue par McCarthy avec un succès imprévisible. Et cela au grand dam de ses opposants, qui furent impuissants un long moment à démonter l'imposture, que ce fût à Hollywood, dans l'université ou encore dans l'administration et le monde politique. McCarthy fut efficace en utilisant des procédés qui méritent d'être restitués pour que l'on comprenne comment ces théories purent prospérer de pareille façon, jusqu'à peser sur la politique étrangère des États-Unis dans les affrontements de la guerre froide. Hélène Arter, professeure à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, est directrice du Centre de recherche d'histoire nord-américaine. Elle a publié des ouvrages importants sur les États-Unis au XXe siècle et je vais la solliciter pour que nous éclairions ensemble cette histoire. Celle d'une sorte d'hallucination collective devant laquelle, avec le recul, on peut rester interdit, mais qui, tout enracinée qu'elle soit dans une époque spécifique, révèle pourtant certaines fragilités de la démocratie américaine qui probablement n'ont pas disparu. Nous allons donc, ce matin, regarder le maccartisme en face. Et pour commencer, une correspondance de Pierre Crenès, qui représentait la radio d'État française aux États-Unis à New York, une correspondance du 7 avril 1950. On est quelque temps après l'émergence de McCarthy sur la scène américaine.
L'événement politique de ces derniers jours, qui apparaît à certains observateurs comme le plus important, est l'attaque du sénateur McCarthy contre le State Department. Si l'essentiel de ces attaques a un but qui apparaît être purement électoral, il n'en est pas moins vrai que nombre d'Américains s'inquiètent de ces méthodes qui, si elles se généralisaient, conduiraient le pays à des habitudes de fascisme. Revoyons les faits. Devant le comité sénatorial des activités anti-américaines, le sénateur républicain du Wisconsin accuse le département d'État, ministère des Affaires étrangères, d'être un repère de communistes, accuse le professeur Owen Latimore, spécialiste des questions d'Extrême-Orient, d'être communiste et chef d'un réseau d'espionnage. Ce à quoi le département d'État répond que le professeur Latimore n'est pas membre du département d'État et que seul un mémorandum lui a été demandé, comme à beaucoup d'autres spécialistes, sur ce que devait être la politique américaine en Extrême-Orient. Le professeur Owen Latimore vient de témoigner devant le comité sénatorial. Il a juré qu'il n'était ni communiste ni espion. Le sénateur McCarthy n'a en fait apporté aucune preuve à ces accusations. Heureusement, tous les républicains n'approuvent pas les méthodes de McCarthy. Ils se rendent compte que si elles venaient à se généraliser, non seulement la politique américaine serait déconsidérée aux yeux de l'étranger, mais encore on arriverait dans le pays à un état de délation, de suspicion qu'on a déjà vu en Europe. Si nous sommes loin de la crainte du FBI, l'espionnite, si elle se développait, amènerait des excès.
Hélène Arter, bonjour.
Bonjour.
Cette archive est datée précisément d'avril 1950, oui. Moins de deux mois après l'émergence de McCarthy véritable sur la scène américaine, de manière qu'il va falloir expliquer.
Oui, tout à fait, c'est très intéressant. Il se fait connaître lors d'un discours qu'il prononce au tout début de l'année, au mois de février, dans lequel il annonce de manière triomphale et sans preuve qu'un certain nombre d'acteurs du département d'État sont en fait des infiltrés qui travaillent pour l'Union soviétique, et il explique qu'il y a à peu près quelques centaines de noms sur la fameuse liste qu'il détiendrait. Alors le contexte est intéressant, hein, on est en pleine campagne électorale, ce sont des législatives en 1950.
Ce qu'on appelle les élections de mi-mandat.
Voilà, de mi-mandat, et les observateurs pense que c'est une manière pour lui de profiter de la médiatisation et de se faire connaître, puisque vous l'avez dit très justement, ce n'est à l'époque un obscur sénateur d'un État qui compte peu dans la vie politique à ce moment-là, qu'est le Wisconsin.
Je voudrais que nous commencions notre conversation en évoquant les vocabulaires, en particulier deux mots qui font florès à ce moment-là, deux expressions. D'une part, la chasse aux sorcières, et d'autre part, la cinquième colonne. Vous voulez bien vous y arrêter un instant, Hélène Arter?
Alors tout à fait, c'est très intéressant parce que cette chasse aux sorcières renvoie à des éléments différents de l'histoire. Alors, tout d'abord, c'est la fameuse pièce d'Arthur Miller. Nous sommes en 1953, donc dans les mois qui vont suivre l'émergence de McCarthy.
Les sorcières de Salem.
Voilà, les sorcières de Salem. Ça parle de ce procès pour sorcellerie qui a secoué la Nouvelle-Angleterre à la fin du XVIIe siècle, mais tout le monde comprend bien qu'il s'agit en fait de dénoncer l'emprise de McCarthy sur la société américaine. Et c'est intéressant parce que ça rappelle aussi que le monde des arts, des spectacles, du théâtre, est particulièrement touché par la chasse aux sorcières. Donc il y a un raccord formidable entre les divers sujets.
D'ailleurs, Arthur Miller lui-même a subi les foudres de McCarthy et des McCarthyistes. Dernier mari de Marilyn Monroe, il a souffert à Hollywood, nous y reviendrons naturellement tout à l'heure.
Oui.
Et puis cinquième colonne, rappelez-moi d'où vient l'expression, elle est beaucoup plus récente.
Oui, cinquième colonne, ça renvoie à la guerre d'Espagne et à cette idée que la victoire militaire aurait été obtenue par les forces armées, mais aussi par une cinquième colonne de gens infiltrés qui auraient été des sympathisants, indétectables et donc extrêmement dangereux, et qui auraient saboté de l'intérieur les forces politiques en présence.
Alors, Madrid.
Madrid, évidemment.
Il y a d'ailleurs un film de Hitchcock, de 1942,
je crois. Oui, tout à fait, qui tourne autour de cette question du sabotage de l'effort de guerre.
C'est le titre, saboteur, il est traduit en français sous le nom cinquième colonne.
Voilà, et en fait, ça dit bien comment cette idée s'impose aux États-Unis à partir de la Seconde Guerre mondiale, qu'il faut se méfier des saboteurs. Alors ça renvoie à une idée encore plus ancienne, dès 1798 et la quasi-guerre contre la France, l'idée qu'il y a des ennemis de l'intérieur qui travaillent pour une puissance étrangère, qui sont infiltrés. Et donc cette idée va être réactivée pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Guerre froide, et va entraîner le vote dès 1798 d'une législation anti-sabotage qui vise ces menaces et sur laquelle vont s'appuyer ceux qui vont porter le macartisme pendant les années 50.
Ce sont des menaces qui sont toujours à la fois polymorphes, hétérogènes, proliférantes.
Oui, tout à fait.
C'est une constante.
Tout à fait. Très difficilement détectable, puisqu'en fait, on sait bien que le Parti communiste aux États-Unis a peu d'influence. Et on le voit très bien quand on analyse les résultats des élections présidentielles. Les candidats communistes font moins d'1% des voix. Donc en fait, on voit très bien que le Parti communiste, c'est peu de choses, et les historiens le découvriront par la suite. La plupart des communistes américains sont restés fidèles à leur pays, et même s'ils étaient séduits par les idées communistes et l'Union soviétique, n'ont jamais trahi.
C'est le paradoxe. Le mot de McCarthyisme est très vite inventé. C'est un caricaturiste, Bloch, qui le met en valeur. Dès mars 1950, on est donc comme l'archive de Crenès, on est deux mois avant la soudaine parousie de McCarthy.
Et c'est très intéressant, c'est-à-dire que très vite, les médias les hommes politiques, notamment à Washington, se rendent compte qu'il y a un problème et une menace. Alors problème et menace, évidemment, quand on est démocrate ou républicain modéré, et puis une opportunité quand on est républicain conservateur, parce qu'on voit finalement combien cet homme politique va être utile pour dénoncer les démocrates au pouvoir et pour être un outil de lutte, hein, finalement, pour les chasser de la Maison-Blanche, puisqu'on a tous en tête, quand on est américain à ce moment-là, la prochaine échéance électorale. Donc c'est vraiment une arme politique, ce McCarthy, qui est à l'œuvre dès finalement 1950.
Est-ce qu'il serait trop risqué de faire une comparaison avec le premier Trump, celui qui au début est utilisé par le Parti républicain pour conduire à la victoire?
Non, je pense que la comparaison est intéressante et aussi sur les inquiétudes que McCarthy va susciter au sein de son propre parti. Et on le voit bien, hein, entre les républicains modérés, parce qu'il y en a aujourd'hui aux États-Unis, et Donald Trump, il y a la même relation que pouvait exister entre les républicains modérés du parti au début des années 50 et cette figure de McCarthy qui est inquiétante.
La chasse aux rouges ne date pas de McCarthy, on peut remonter loin en arrière.
Oui, tout à fait. Hein. En fait, elle commence avec l'installation d'un régime bolchevique, hein, initialement à Moscou, puis communiste, avec notamment au début des années 1920 une série d'arrestations de communistes ou de sympathisants du Parti communiste, qui va être suivie souvent d'expulsions pour ceux qui ne sont pas des citoyens américains en direction de l'URSS. Alors ça brasse très large, hein, puisque ce sont à la fois des communistes, ce sont des gens qui sont à la gauche de l'échiquier politique, ce sont des syndicalistes. On pense évidemment à Emma Goldman, hein, figure du syndicalisme importante, hein, qui va être expulsée vers l'Union soviétique, avec des opérations qui sont extrêmement médiatisées et qui reçoivent le soutien de l'opinion publique.
Alors si on avance en partant de l'entre-deux-guerres jusqu'à la période qui nous concerne directement, c'est-à-dire l'après-guerre 1949-50, le climat dans lequel va prospérer l'initiative de McCarthy, ce qu'on trouve, c'est que ça peut apparaître comme une mauvaise année aux yeux de l'opinion américaine. Déception, on espère après 45 un monde nouveau de sécurité collective. On voit arriver Mao Tse-tung en Chine, l'atome soviétique. Tout cela inquiète.
Tout à fait. L'illusion d'un monde en paix, vous le rappelez, s'écroule assez vite. Hein. On voit bien les tensions et la perception des tensions. Je pense que c'est surtout ça qui est important dès 1946. La perte du monopole atomique en 1949 est un choc profond pour les Américains. Et puis le basculement de la Chine vers le communisme en 1949 est un élément qui inquiète très fortement, pas tellement pour ce que ça représente au départ, parce qu'on n'imagine pas une guerre frontale entre les deux pays, mais ça interroge aussi de manière plus profonde sur un certain angélisme qu'aurait pu avoir Franklin Roosevelt au moment de la négociation de la fin de la guerre. Donc on voit bien combien s'entremêlent des enjeux de politique étrangère et puis des questions de politique intérieure extrêmement importante, notamment sur la place du président dans la politique étrangère.
Et à surcroît découverte d'un certain nombre de réseaux d'espions au Canada, en Angleterre, qui va évidemment contribuer à une sorte de paranoïa collective.
Tout à fait. Et ce qui explique d'ailleurs l'année 46, puisque l'affaire Gouzenko au Canada, hein, où on découvre qu'il y a un réseau d'espions soviétiques au Canada, c'est 46. Donc ça montre que finalement, la rupture de la Grande Alliance se fait de manière extrêmement précoce et que c'est un sujet d'interrogation et d'inquiétude pour un très grand nombre d'Américains.
Il faut ajouter la guerre de Corée un peu plus tard, précisément en 1950. Mm-hmm. La concomitance de ces événements doit être relevée.
Ah oui, parce qu'on voit bien que McCarthy émerge dans un contexte de campagne électorale donc très interne. Et il a une formidable opportunité, si l'on peut dire, c'est le déclenchement de la guerre de Corée en juin 1950, puisqu'il peut dire, vous voyez, je vous l'avais bien dit, ce monde est menaçant. Et il faut rappeler l'arrestation des époux Rosenberg à l'été 50, qui va évidemment renforcer encore plus son discours à travers un exemple concret.
Vous évoquez les Rosenberg, ce couple qui a été accusé d'espionnage au profit de l'Union soviétique en révélant certains secrets nucléaires. On ne peut pas expliquer cet épisode, même s'il semble qu'il soit vrai qu'ils ont été finalement des espions. On ne peut pas l'évoquer sans revenir à l'atmosphère créée par McCarthy.
Tout à fait, et la médiatisation du cas, hein, puisque très vite la presse suit en détail l'arrestation, le procès, le dossier qui remonte à la Cour suprême, et puis l'exécution, puisque le président Eisenhower ne les gracie pas. Et donc ça devient un sujet international assez rapidement.
Ce sont les seuls espions qui ont été exécutés en temps de paix.
Tout à fait.
Joseph McCarthy, son premier propos éclatant, 9 février... 1950 est antérieur au déclenchement de la guerre de Corée.
Tout à fait. Et on voit bien que là, sa cible, c'est le département d'État.
Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, pourquoi
ce jour-là ?
Ce moment-là, mais parce qu'en fait, ce que disent les spécialistes de McCarthy, c'est que à ce moment-là, il pense à sa réélection au Sénat en 52. C'est un sénateur junior et tout le monde dit que ses chances d'être réélu sont très faibles. Donc il commence par faire une campagne sur des questions de logement dans le Wisconsin et d'éducation qui passionnent peu les foules parce que ce sont pas des vrais sujets. Et donc il est anticommuniste, mais il est surtout opportuniste.
Situez-le s'il vous plaît, en 1950. Alors, il a une réputation un peu de buveur, de bagarreur déjà.
Oui, non, c'est un personnage assez sulfureux, il s'écarte de la règle, il est violent en politique. C'est vraiment pas le genre de personnage très, très fréquentable. Et de toute façon, on le voit bien, le Parti républicain ne s'intéresse guère à lui jusqu'à ce moment-là. Donc il est vraiment obscur, il représente un État qui a peu d'influence, hein, peu de grands électeurs pour élire le président, on le sait. C'est un État rural, et donc voilà, il lui faut exister, et il a une opportunité, il s'en saisit, et il joue quand même sur un ressort qui marche pour les Américains. C'est le rapport au département d'État. Hein, ces gens qui sont des diplomates, qui viennent plutôt de l'establishment, qui sont très cotestes, qui sont très internationalistes. Et là, il appuie sur le ressort de la méfiance naturelle qu'on a vis-à-vis de l'État, du gouvernement fédéral, de Washington. Et il joue la carte de l'Amérique profonde, rurale, la vraie Amérique, face à ce monde internationaliste cosmopolite qu'il déteste.
Il faut évoquer ce qu'est son discours de février 1950. C'est en Virginie.
Alors Wheeling, hein, qui est un lieu pas très connu, est donc une sorte de théâtralité du discours où il annonce qu'il a une feuille de papier et il explique qu'il a une liste de noms de gens, à peu près 200, qui occupent des postes importants au département d'État, mais en fait sont des infiltrés qui travaillent pour l'Union soviétique. Et donc, trahissent.
Les infiltrés, encore un mot du vocabulaire.
Et on retrouve notre cinquième colonne, finalement.
Bien sûr, mais un vocabulaire qui, en vérité, est extraordinairement proliférant, lui aussi.
Oui.
Tout on retrouve la conspiration, le sabotage, l'espionnage, le complot, la dénonciation, la répression, l'inquisition, la dénonciation de l'immigrant, le dissident, le marginal, l'exclu. J'emprunte cette liste à André Caspi, qui est votre maître, Hélène Arthez, et qui a beaucoup écrit sur ces choses.
Oui, et on voit bien hein, que, en fait, si le discours porte, c'est qu'il répond à la fois à des inquiétudes de relations internationales, mais aussi à des idées qui sont extrêmement intériorisées chez les Américains. Il ne faut pas oublier que les Américains qui ont 50, 60 ans, dans ces années-là, ont connu la première chasse aux sorcières des années 20. Ils ont vécu avec l'émergence de cette puissance soviétique. Et donc c'est un discours qui finalement leur parle de manière tout à fait précise.
Je pense, Hélène Arthez, qu'il ne faut pas attendre pour entendre la voix de McCarthy. C'est une archive qui nous rapporte un de ses discours. C'est un discours tardif, à vrai dire, du 17 mars 1954, 4 ans après le déclenchement du McCarthyisme à proprement parler, mais qui donne bien le ton, un ton qui a été permanent dans l'expression de McCarthy. Écoutons-le, il est traduit en français.
Ladies and gentlemen.
Je compte parler de cette guerre dans laquelle nous sommes engagés depuis 105 ans. La guerre déclarée par Karl Marx en 1848, redéclarée et actualisée par Lénine, redéclarée ensuite par Staline, et encore redéclarée par le Kremlin dans les 5 ou 6 dernières semaines. Gardez à l'esprit, mes chers amis, que jusqu'à ce soir, cette guerre, nous ne la gagnons pas. Gardez à l'esprit qu'il y a 106 ans, quand cette guerre fut déclarée, on pouvait compter les communistes actifs sur les doigts des deux mains. 97 ans plus tard, 1945, on ne pouvait les dénombrer sur les doigts des deux mains, leur nombre étant passé à 180 millions d'âmes. Ce soir, le 17e jour de mars 1954, seulement 8 ans plus tard, leur chiffre n'est pas de 180 millions, mais ce soir, leur chiffre est de 800 millions de personnes. 800 millions de personnes dans le régime communiste. Aucun régime répressif n'a jamais obtenu un tel succès dans l'histoire de ce monde.
On peut dire que ce survol de l'histoire, Hélène Arter, est un peu sommaire peut-être, mais il touche, il frappe.
Oui, parce que en fait, au-delà des dates, il cite des noms, Karl Marx, l'idéologie communiste, Lénine, puis surtout Staline. Et d'ailleurs intéressant, parce que finalement, il est un peu à contre-courant de l'histoire. Staline est mort en mars 53. On sait que la mort de Staline a permis un début de détente entre les autorités américaines et soviétiques. Et là, on voit que finalement, McCarthy, lui, est toujours dans une dénonciation extrêmement ferme de l'infiltration communiste aux États-Unis, et il appuie en particulier sur cet élément traumatique pour les Américains qui est le basculement de la Chine vers le communisme avec l'arrivée au pouvoir de Mao en 49. Donc on voit bien que il met en avant les deux menaces communistes que sont finalement Moscou et Pékin dans une logique purement de relations internationales.
Vu d'Europe, cet événement, c'est comme un feu de brousse, la vitesse avec laquelle McCarthy s'installe dans la vie publique aux États-Unis. Cet événement surprend et provoque des commentaires intéressants, évidemment. En voici deux. Un extrait de La Tribune de Paris, fameuse émission présentée par Raymond Thévenin, avec Raymond Aron et Maurice Duverger. Le 30 mars 1954, Maurice Duverger, politiste notoire à l'époque, et Raymond Aron, ce grand philosophe qui est aussi spécialiste des relations internationales, avec des ouvrages dont on connaît la portée.
Tribune de Paris, les hommes, les événements, les idées, à l'ordre du jour, une émission d'Émile Donat et Raymond Thévenin.
Dans un tour circulaire d'Amérique, il y a quelques mois, à peu près partout, au bout de 5 minutes de conversation, on me parlait de McCarthy et on s'inquiétait de McCarthy. Le phénomène a une importance considérable. Cet homme arrive aujourd'hui à lutter à armes égales avec le président des États-Unis, à devenir l'homme qui va dominer la campagne électorale du Parti républicain.
Raymond Aron, il n'est pas douteux que McCarthy ait fait le plus grand mal à l'administration américaine et au corps de fonctionnaires, ce qui semblerait indiquer d'ailleurs que sa lutte contre le communisme n'est pas efficace, puisque le résultat le plus visible qu'il a obtenu, c'est de créer une atmosphère d'inquiétude, en particulier dans le personnel du State Department, c'est-à-dire parmi les diplomates. Cette atmosphère de soupçons permanents, ces accusations souvent lancées à la légère, la manière de compromettre quelqu'un en démontrant qu'il y a un nombre X d'années, il a été en relation avec tel ou tel groupe communiste, tout ce système a pour résultat d'inquiéter des fonctionnaires parfaitement loyaux et de décourager un certain nombre d'Américains qui voudraient servir l'État dans les grandes administrations publiques. Par conséquent, je suis d'accord que le phénomène est sérieux pour l'administration américaine et je dirais volontiers la seule grande victoire aux dépens des États-Unis remportée par le sénateur McCarthy, c'est le début de désagrégation morale qu'il a obtenu dans le corps des diplomates professionnels américains.
Désagrégation morale parmi les fonctionnaire du State Department, Hélène Arter.
McCarthy a une dimension très anti-establishment, anti-Washington, extrêmement profonde. Mais il est aussi un politicien. Et en fait, il cherche par ce biais aussi à gêner l'action du président des États-Unis par l'intermédiaire du Département d'État.
Politicien, ce n'est pas un faux ami venu de l'anglais, vous le prenez dans son sens dépréciatif.
Oui, il est un politicien au sens où son ambition, c'est d'être réélu avant d'avoir vraiment un projet et une ambition politique. Il utilise toutes les tactiques possibles, les coups fourrés. Il n'a pas une ambition de servir, finalement. Il est au service de sa propre cause.
Il faut rappeler que dans ces deux premières années du McCarthy, c'est Truman qui est président. Truman l'ancien vice-président de Roosevelt, qui a accédé à la Maison Blanche à la mort de Roosevelt et qui a été réélu un peu à l'étonnement général en 1948 et qui accomplit donc ses deux dernières années de mandat après des élections de mi-terme à la Chambre des représentants et au Sénat qui n'ont pas été favorables. Du coup, on a parfois l'impression que Truman fait de la surenchère dans un premier temps, ce qui n'est pas sans servir évidemment les menées de McCarthy.
Vous avez très justement rappelé qu'en fait la chasse aux sorcières commence dès 1946 avec les premières décisions de l'administration Truman de vérifier la loyauté des fonctionnaires fédéraux. Et en fait, on est dans un moment assez particulier où ensuite les Républicains et McCarthy vont faire de la surenchère à partir de ce moment-là, et dans une lutte très partisane, hein, puisque, en fait, ces démocrates sont quand même majoritaires. Et donc, on voit bien que l'opposition républicaine est dans une dénonciation classique d'une opposition pour essayer d'affaiblir l'opposant et de gagner les élections la fois suivante. Et on voit bien combien cette chasse aux sorcières échappe, en fait, aux démocrates qui vont en devenir les premières victimes assez rapidement.
Du côté des Républicains, on discerne une coupure qui n'est pas sans rappeler certaines divisions d'aujourd'hui entre ceux qui pensent qu'il faut se servir de McCarthy pour être élu et ceux qui sont un peu dégoûtés par ses excès, ses procédés.
Oui, tout à fait. On voit bien comment Richard Nixon...
Le voilà, jeune
représentant de Californie, qui est un anticommuniste avéré, hein, il a fait campagne pour être élu sur ce terme, va se servir de la commission des affaires anti-américaines pour acquérir une réputation nationale, mais aussi va se servir ensuite de McCarthy pour pousser des idées conservatrices. Et à l'inverse, à l'intérieur du Parti républicain, il y a la branche modérée, hein, qui est incarnée par le sénateur Cabot Lodge, grande famille de la vie politique américaine.
Oui, on disait que les Cabot ne parlaient qu'au Lodge et les Lodge ne parlaient qu'à Dieu.
Voilà, c'est une très belle phrase hein, de la fin du 19e siècle.
Entre les Cabot Lodge et notre McCarthy, il ne peut pas y avoir de sympathie spontanée.
Non, évidemment pas. Et donc, Cabot Lodge, qui s'inquiète assez vite, finalement, de l'effet que peut avoir McCarthy et qui va essayer, au sein du Parti républicain, de l'affaiblir, de le contenir, sans y arriver d'ailleurs.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Je voudrais maintenant que nous en venions, Hélène Arter, à considérer le fonctionnement de la machine, les procédés de McCarthy. Quelle est sa méthode? Comment fait-il pour réussir de la sorte pendant de longs mois, pendant 4 ans en fait, à s'imposer sur la scène américaine?
Alors, il y a deux éléments qui sont importants. C'est-à-dire que à partir du moment où il est sénateur, il siège à Washington et il va notamment se retrouver au sein d'une commission qui est chargée de contrôler l'action du gouvernement, puisqu'on est dans le principe des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Le Congrès a cette mission de contrôler l'action de l'exécutif. Et il va s'en servir, c'est une commission qu'il préside, comme une tribune où il va mener des enquêtes, convoquer des témoins sous serment, donc ce qui les oblige à dire la vérité, puisqu'autrement ils peuvent être traînés devant les tribunaux pour parjure.
Donc c'est mis en prison.
Et mis en prison et condamné. Donc ça va être un outil extrêmement puissant d'action pour traquer les infiltrés. Et puis ce qu'il faut aussi préciser, c'est que nous sommes à une époque très particulière où la télévision est en train de rentrer dans les foyers américains. On estime qu'à peu près un Américain sur 3 a la télé chez lui. Et ces commissions d'enquête sont filmées, médiatisées. C'est pas encore la télé en continu, mais presque.
La télévision va servir à la fois l'essor de McCarthy et cette chute que nous allons voir tout à l'heure.
Tout à fait. Et donc, en fait, les Américains découvrent dans leur foyer ces commissions d'enquête, un rôle d'imprécateur hein, de McCarthy, de procureur auquel ils sont habitués dans les tribunaux, et qui dénoncent, exemple à l'appui, des cas réels ou supposés. Et donc, ça va contribuer à cette dimension extrêmement anxiogène, puisqu'on voit bien que le communisme, finalement, se matérialise, cette menace, jusque dans les foyers. Donc il va utiliser vraiment cet outil télévisuel dans sa lutte.
Et les dénonciations s'ajoutent aux dénonciations sans qu'il se donne l'obligation de justifier ce qu'il est en train de pourfendre.
Et oui, parce que c'est lui qui maîtrise l'interrogatoire, si l'on peut dire. Les témoins, très souvent, s'abritent derrière le 5e amendement de la Constitution qui leur donne le pouvoir de ne pas répondre à une question si elle va les incriminer. Donc évidemment, McCarthy l'utilise pour dire que finalement, s'ils se taisent, c'est qu'ils ont des choses à cacher. L'opinion publique le ressent comme ça. Et finalement, je crois qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'il y a un certain nombre d'affaires d'espionnage ou autres liées qui sont portées devant les tribunaux. Et donc finalement, les cours de justice vont l'aider aussi dans son combat. Hein. Il y a une chasse aux sorcières qui est législative, mais il y a aussi une chasse aux sorcières judiciaire. Et donc la conjonction des deux fait qu'il y a comme une sorte d'alignement des planètes qui fait que McCarthy est vraiment sur le devant de la scène à ce moment-là.
La notion de complot est évidemment centrale. Oui. On a l'impression qu'il y a une sorte d'hydre cachée qui tire les ficelles de la société. Démonstration qui trouve à l'époque, comme parfois aujourd'hui encore, des appuis préoccupants.
Tout à fait. Hein, cette idée du complot, du complotisme, est quelque chose qui parle à de nombreux Américains. Ça renvoie aussi toujours à cette question du rapport au gouvernement fédéral. Cette idée qu'il est liberticide, tyrannicide, c'est une image qui s'est construite au moment de la guerre d'indépendance, hein, autour de la figure du George III qui empêchait les libertés américaines. Alors une forme d'exagération, hein, évidemment, mais on voit bien combien cette construction politique est forte aux États-Unis et combien tout ce qui vient de Washington est souvent perçu de manière négative. Hein. On a cette image qui revient régulièrement qu'il faut nettoyer les écuries d'Augias et élire des hommes purs à Washington. Et McCarthy est vraiment dans cette logique.
Parmi ces cibles, les milieux auxquels il s'en prend, il n'y a pas seulement les hauts fonctionnaires, les diplomates, il y a aussi les intellectuels. Dans l'archive de tout à l'heure, on évoquait, Pierre Crenès évoquait le sinologue Owen Latimore. Il est assez représentatif d'une des victimes de McCarthy.
Tout à fait. Les universités sont particulièrement visées par McCarthy. Toujours sa logique anti-establishment. Il y voit un repère de gauchiste. C'est l'idée de l'anti-intellectualisme hein, qui est important aux États-Unis dans de nombreuses couches de la société. Je rajouterais aussi, c'est une inquiétude que les idées qu'on distille dans les jeunes esprits. Hein, donc en fait, cette lutte, elle vise l'université, mais elle vise encore plus les lycées, avec des inquiétudes des parents que les enseignants soient séduits par les idées communistes et les fassent prospérer chez les jeunes. Et donc ça explique en fait pourquoi dans de très nombreux États américains, on demande aux enseignants du secondaire de prêter des serments de loyauté. Et dans ces serments de loyauté, ils jurent qu'ils ne sont pas communistes. Donc on voit bien que cette question de l'enseignement, de la transmission, il est central dans les préoccupations.
Il y a des intellectuels, des universitaires qui se sentent assez proches des idées anticommunistes de McCarthy, mais qui sont malheureux à l'idée que leur doctrine est propagée, incarnée par un homme qui leur apparaît un faux comme un clown assez grotesque.
Tout à fait. Et puis, il le trouve surtout dangereux pour la démocratie, pour les libertés. On n'est pas du tout dans le débat d'idées qui opposerait argument contre argument.
L'idée qu'il affaiblit la démocratie, cette notion d'anti-intellectualisme est très, très importante et peut-être là encore trouve un peu un écho aujourd'hui. Si on prend la sociologie des soutiens de McCarthy, on la connaît assez bien. Il y a les travailleurs manuels, les catholiques, les petits blancs aussi, les personnes âgées.
Oui, tout à fait. Il faut peut-être aussi rappeler que nous sommes au début des années 50, où tout commence aussi à émerger la question des droits civiques, hein, qui est une question en arrière-plan qui est en train de monter. Et on voit bien qu'il a un électorat qui ne ressemble pas du tout à ce qui fait le cœur du Parti républicain modéré. Et il va aussi capitaliser hein, sur ces inquiétudes d'une partie de l'opinion américaine qui ne se reconnaît pas dans une Amérique transformée finalement par la Seconde Guerre mondiale et la sortie de la guerre.
Est-ce qu'il y a du racisme dans sa doctrine, dans ses propos ?
Pas ouvertement, mais on voit bien et on sait bien qu'il ne fait pas partie de ceux qui soutiennent la cause des droits civiques, c'est évident. Et d'ailleurs, son électorat, il ne le trouve pas chez les Noirs, hein, c'est évident. Il faut aussi quand même rappeler que la vie politique américaine est très différente d'aujourd'hui. Hein. Les démocrates conservateurs sont hostiles à la question de la déségrégation et des droits civiques.
Tous ceux du Sud.
Tous ceux du Sud. Et il y a une alliance objective, en fait, entre ces conservateurs du Sud blancs et McCarthy. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une alliance des conservatismes entre les démocrates et les républicains. On saute la barrière des partis autour de cette idée conservatrice.
Il y a un lieu, Ellen Arter, où le McCarthyisme va faire des ravages particuliers en attirant beaucoup l'attention pour une raison qui est assez claire, à cause de la notoriété de ce lieu-là, je veux dire Hollywood.
Oui.
C'est un lieu où d'une certaine façon, se ramassent les oppositions avec des dimensions évidemment psychologiques, émotives, qui méritent tout à fait que vous nous en parliez.
Alors tout à fait, Hollywood est le premier lieu finalement où est médiatisée la question de la lutte contre le communisme avec des auditions qui sont organisées par la Chambre des représentants, hein, c'est la commission de l'UAC. Comme son nom l'indique, il s'agit de traquer les activités anti-américaines et qui a l'idée de choisir Hollywood comme cible parce que qui dit Hollywood dit médiatisation. Puisqu'en fait vont défiler des figures connues de tous les Américains. Je pense à quelqu'un comme Walt Disney, par exemple. Et donc c'est la garantie, de manière très opportuniste, par ceux qui portent cette commission, notamment Richard Nixon, pour s'assurer que les Américains vont suivre les travaux de la commission. Parce que si vous auditionnez des enseignants d'un lycée de New York, vous voyez bien que l'audimat ne va pas être exactement le même. Donc on voit bien combien Hollywood va être au cœur, et parce que aussi évidemment Hollywood, on peut penser que ce sont des faiseurs d'opinion. Donc en fait, ce qu'on vise, comme l'université, ce sont les faiseurs d'opinion.
D'ailleurs, on avait mis Hollywood au cœur de la lutte contre le nazisme, pendant la guerre. Ils étaient vraiment mobilisés.
Oui, oui, on voit bien la continuité hein, finalement, et cette prise de conscience que le cinéma est une arme idéologique. Et évidemment, c'est une arme idéologique au cœur de la guerre froide. Donc il est inenvisageable, évidemment, qu'on puisse penser que ce cinéma penche du côté du communisme.
Et l'histoire des comportements des uns et des autres est évidemment digne de toutes les attentions et a continué de marquer les biographies de plusieurs dans la longue durée. Je pense à ceux qui sont partis, qui ont été en quelque sorte chassés, Joseph Losey par exemple, ou Jules Dassin, et d'autres qui sont restés non sans des compromissions qu'on a pu leur reprocher. Alors deux exemples. Je voudrais vous faire entendre la voix de deux personnages que l'histoire a opposés. D'un côté, Joseph Losey, le célèbre réalisateur ultérieur de The Servant, de Eva, de Don Giovanni, qui a été obligé de s'exiler. Et puis ensuite, Kazan, qui, pour sa part, à dénoncer. Et vous verrez comment il essaye de s'en justifier. Mais d'abord, Losey, c'est Michel Simon, le grand spécialiste d'histoire du cinéma que nous avons perdu récemment, qui a souvent collaboré à France Culture. C'est Michel Simon qui l'interroge.
Joseph Losey, les gens de gauche ont commencé à être inquiétés aux États-Unis à partir de 1947. Il est aujourd'hui très bien vu en Amérique de s'indigner contre le McCarthyisme. Tous les journaux américains s'accordent à dire que ce fut une période honteuse, mais mes lectures ne m'ont pas montré la même indignation des médias de cette époque.
Je pense que les poursuites, surtout dans le domaine des arts, et peut-être aussi par voie de conséquence dans les autres professions, auraient pu être arrêtées dès le début. Au prix d'un peu de courage de la part de certaines personnes comme Doris Sherry et plus tard Kazan, qui avaient du succès et une bonne assise financière. Mais il régnait alors une terreur générale et quand on en eut fini avec Hollywood, on en était à quelque chose comme 500 assignations. L'indignation était très profonde dans le pays, mais pas assez pour éclipser la peur.
Voilà le point de vue de Losey, et en face, Ellen Arter, je vous propose celui de Kazan, qui essaye tant bien que mal de s'expliquer, de se justifier. C'est encore une émission de Michel Simon, Kazan par Kazan, sur France Culture.
Je crois qu'il n'y a rien dans ma vie envers quoi j'ai des sentiments plus ambivalents que cette action que j'ai dû faire pendant la période de la commission. Je crois que donner les noms d'autres personnes, c'est quelque chose de vraiment répugnant et je me sens encore très mal à l'aise avec ce sujet. Sur le plan personnel, évidemment, pour moi, c'était dramatique de devoir donner les noms, même si c'était les noms de personnes qui étaient notoirement communistes, que tout le monde connaissait. C'est une époque où j'avais vraiment le sentiment que l'Union soviétique était un empire impérialiste, agressif. Mais malgré tout, je n'aimais pas du tout les gens de droite. Et je l'ai toujours dit tout à fait clairement. Je dois aussi admettre qu'il y avait de ma part un certain sentiment personnel. Et j'étais vraiment très furieux de la façon dont les communistes m'avaient traité, qu'ils m'avaient renvoyé. Je savais ce qu'ils étaient, puisque je l'avais vécu de l'intérieur. C'était vraiment une organisation qui essayait de travailler avec Hollywood de façon à les utiliser, à utiliser les gens de Hollywood et de Broadway, à les punir aussi. Et tous les auteurs étaient mais à genoux devant le parti.
Ces deux entretiens me paraissent Hélène Arter rendre bien compte de cette sorte de tourbillon psychologique et politique qui s'est développé à Hollywood à ce moment-là.
Oui, on voit très bien finalement deux attitudes, hein, au moins. Ceux qui vont être fermes sur leurs convictions, ceux notamment qu'on va appeler les 10 de Hollywood, hein, qui ont été convoqués devant l'UAC, qui ont refusé de répondre à la question « Avez-vous été communiste ?» et qui vont se retrouver assignés en justice, pour certains condamnés à des peines de prison et obligés pour un certain nombre de devoir quitter les États-Unis. On pourrait rajouter aussi Jules Dassin, hein, qu'on connaît bien en France. On voit hein, quelques artistes qui vont créer un comité pour la défense du premier amendement dans l'espoir un peu vain à l'époque d'essayer d'arrêter la machine. Hein. Je pense à des gens qu'on connaît bien, Lorraine Bacall, Humphrey Bogart, Catherine Hepburn, qui vont essayer aussi d'utiliser leur notoriété pour faire échec à cette politique.
Humphrey Bogart, oui, est accusé d'avoir soutenu les républicains espagnols avant la guerre. Et il répond, mais c'est votre commission qui a des activités anti-américaines.
Et en fait, on voit bien comment ces gens qui ont vécu dans les années 30 et 40, où finalement, dans les années 30, il y avait une sympathie à Hollywood pour la cause des républicains espagnols. Puis ensuite, à Hollywood, on a suivi aussi la politique américaine de la Grande Alliance avec l'Union soviétique. Il faut quand même rappeler que l'Union soviétique va bénéficier du pré-bail à partir de son invasion par l'Allemagne nazie en 41.
Oui, c'est le souvenir de cette période-là qui complique tellement le regard.
Ça complique les choses parce que finalement, l'Alliance a été promue par la Maison-Blanche. Des films ont été tournés à Hollywood pour la valoriser. Et puis ces gens, quelques années après, se retrouvent à être mis en accusation pour quelque chose qui était finalement complètement dans l'air du temps. Et puis on voit à l'inverse un Kazan qui, lui, finalement, dans une logique de survie, très certainement, d'opportunisme, va faire le jeu, finalement, du macartisme, essaye de se dédouaner quelques années après par des interviews, mais aussi à travers son œuvre cinématographique et le film Sur les quais, où, en fait, d'une certaine manière, il parle de lui-même et de son rapport à la chasse aux sorcières, au macartisme et au choix qu'il a fait d'être du côté de ceux qui dénonçaient.
Comment le fait-il dans ce film ?
Avec un personnage hein, ambigu, on parle de questions de syndicalisme, on est sur les docks, faut-il dénoncer, ne faut-il pas dénoncer ? Et donc on voit bien la transposition hein, des questions et toutes les personnes qui voient le film Sur les quais comprennent bien qu'en fait on ne parle pas que du sujet dont il est question, mais des enjeux de positionnement par rapport à la chasse aux sorcières.
On peut citer aussi le cas de Charlie Chaplin, bien qu'il soit britannique et pas américain, qui est la cible d'accusations de communisme. Le FBI lance une enquête à son sujet dès 1947. Son visa est révoqué en 1952. Il a cette réaction.
I've never belonged to any political party in my life, and I have never voted in my life.
Could you answer the direct question, are you a communist?
I am not a communist.
Je n'appartiens pas à un parti politique, je n'ai jamais voté dans ma vie et je ne suis pas communiste.
Oui, et ça montre bien qu'en fait, cette question dépasse les simples citoyens américains, mais tous ceux aussi qui ont choisi de vivre aux États-Unis à un moment donné de leur vie.
Puisque nous approchons de la fin de notre conversation consacrée au McCarthyisme ce matin, Hélène Arter, il faut maintenant nous expliquer pourquoi finalement le personnage est tombé, comment progressivement les oppositions se sont dessinées, peut-être s'est-il attaqué à un trop fort adversaire avec l'armée, mais d'abord cette chanson ironique qui est contemporaine de ces derniers mois de McCarthy avant qu'il disparaisse sous les coups du Sénat. C'est un groupe assez peu connu qui s'appelle Les Cavaliers avec un K et qui a donné cette chanson qui s'appelle Get That Communist Joe. Joe, c'est McCarthy, bien sûr. Attrapez ce communiste Joe. Viens ici une minute, j'ai un tuyau pour toi. Tu vois ce type avec les bretelles rouges au volant de cette voiture, aux ailes rouges, vifs. Je sais que c'est un de ces gros dépensiers. Attrape ce communiste, etc. Il remplit ma fille de propagande et j'ai peur qu'elle s'égare. Je ne veux pas prendre le risque qu'on l'attrape. Attrape ce communiste Joe.
Bubble. Joe, bubble. Come here a minute. Bubble. I got a red hot tip for you, Joe. Bubble. See that guy with the red suspenders, bubble, driving that bubble car with the bright red bubble fenders. I know he's bubble one of those heavy spenders. Bubble. Get that communist bubble Joe. He's filling my gal with propaganda, and I'm scared she will meander. Don't wanna take a chance that he'll land her. Get that communist Joe. He's the most revolting character, and the fellas hate him so. But with the girls, this character is a comrade Romeo. Since my love, he's sabotaging, and the law he has been dodging. Give him what he deserves, jailhouse lodging. Get that communist Joe.
Get that small Joe.
C'est un signe pour vous, Hélène Arter, cette chanson du vent qui tourne?
Tout à fait. On voit bien combien McCarthy a été au cœur de la culture populaire. Et le fait qu'on se permette ce genre de chanson montre bien que l'état d'esprit de l'opinion publique a radicalement changé à ce moment-là.
Il y a à la fois la fin de la guerre de Corée, une ouais certaine évolution, la mort de Staline, ouais, une certaine diminution de l'inquiétude. Et puis, il y a le passage d'un président à l'autre. On passe de Truman à Eisenhower, le général Eisenhower, en 1952. Eisenhower, vous l'aimez beaucoup, puisque vous venez, Hélène Arter, de lui consacrer une très brillante biographie, le chef de guerre devenu président. Alors, il faut que vous nous disiez quel rôle Eisenhower joue. Il déteste McCarthy, il l'écrit d'ailleurs dans des lettres privées. Et puis, quand il va commencer à s'attaquer à sa propre administration et à l'armée, cela lui devient insupportable. Cette fin de parcours pour le McCarthyisme, je voudrais que vous nous l'évoquiez.
Alors c'est vrai que le contexte international change considérablement la donne avec la mort de Staline. On est en mars 53, qui correspond peu ou prou à l'arrivée à la Maison-Blanche d'Eisenhower. On est en janvier 53, qui est un républicain comme McCarthy, mais un républicain modéré. Et les deux hommes ont plus des caractères radicalement opposés. Eisenhower est un homme de conviction et de droiture. Et McCarthy lui paraît tout à fait insupportable par ses idées, par ses méthodes et par la menace qu'il fait peser sur la démocratie.
Il est proche du dégoûtant. C'est la matrice de devoir avoir honte pour le Sénat des États-Unis.
Oui, et en fait, ce qui se passe, c'est que les sénateurs eux-mêmes, qui commencent une nouvelle législature à ce moment-là, s'inquiètent aussi de plus en plus de l'image que fait porter McCarthy sur leur institution, mais aussi de la menace qu'il fait peser sur la démocratie. Et donc ils vont utiliser une arme qui est très rarement utilisée aux États-Unis, qui est une procédure de censure, hein, qui les sénateurs peuvent censurer l'un des l'autre s'ils estiment qu'il a violé la Constitution et agi de manière inappropriée. Et la raison, évidemment, c'est les attaques contre l'armée, la violence, hein, des attaques ad hominem sur les personnes, des attaques sur l'intelligence. À un moment donné, il explique qu'un général a la cervelle d'un enfant. Bref, et tout ça sous les caméras de télévision. Et on voit ces Américains découvrir avec stupéfaction que cet homme est abject, est ordurier, est irrespectueux. Et donc la télévision finit de tuer McCarthy. auquel se rajoute évidemment la stratégie du président qui va utiliser les autres membres du Parti républicain. Il n'agit jamais à visage découvert, toujours en sous-main, et notamment Richard Nixon pour essayer de neutraliser. Il faut rappeler que Richard Nixon, entre-temps, est devenu son vice-président. Donc il a pour mission de neutraliser McCarthy en faisant comprendre aux autres sénateurs républicains que ce n'est plus possible, qu'il faut s'en débarrasser et qu'il est une menace à la fois pour le pays et à la fois pour le parti.
Il interdit d'ailleurs à ses amis de désormais de comparaître devant la commission.
Tout à fait. Alors c'est très important parce que en fait c'est un acte politique très fort où il dit en fait aux membres de l'administration si vous êtes convoqués devant la commission sénatoriale de McCarthy, je vous interdis de lui communiquer des documents d'État, hein, puisqu'on sait que la séparation des pouvoirs donne ce pouvoir au Sénat. Et donc il impose ce qu'on appelle le privilège de l'exécutif. Hein, donc c'est un acte politiquement assez rare.
Et il y a un personnage tout à fait emblématique auquel McCarthy réserve des attaques particulièrement virulentes, c'est Marshall, que nous connaissons surtout à cause du plan Marshall, le général Marshall, qui apparaît comme une très belle figure, ces attaques vont se retourner contre McCarthy lui-même.
Oui, tout à fait. En fait, Eisenhower est doublement choqué. Il est choqué, évidemment, par le style McCarthy, qui ne lui correspond pas du tout, mais aussi parce qu'il a un lien personnel extrêmement fort avec Marshall, qui a été son supérieur direct pendant la guerre, qui est une sorte de mentor, qu'il apprécie beaucoup. Et on voit bien toutes les contradictions de l'époque, parce que pendant longtemps, Eisenhower ne fait rien malgré les attaques que subit Marshall hein, pendant la campagne de 52. Et c'est au moment où il devient président qu'il va, d'une certaine manière, mettre toute la puissance de l'exécutif pour mettre un terme aux actions de McCarthy. Donc c'est à la fois pour Eisenhower un dégoût personnel, mais c'est aussi une interrogation plus puissante sur finalement le danger que fait peser McCarthy pour la démocratie américaine, mais aussi pour l'image des États-Unis dans le monde finalement. Parce qu'en pleine guerre froide, c'est quand même aussi un enjeu tout à fait majeur.
McCarthy, il meurt 3 ans après sa chute en 1957, abandonné, alcoolique et dépressif.
Oublié.
Mais ça n'empêche pas que certains continuent de le révérer. Je vois qu'à Baltimore, on avait construit une statue de 2 mètres. On le représente luttant contre des serpents, ouais. C'est-à-dire contre les ennemis des États-Unis. Néanmoins, tout s'efface assez vite.
Oui, alors l'homme en soi disparaît assez vite parce qu'il est vraiment plus dans l'esprit du temps. Mais les idées qu'il porte, en fait, sont quand même partagées par un très grand nombre d'Américains et elles ressurgissent de manière assez régulière. Donc McCarthy dit quelque chose de l'Amérique au-delà de ses excès, hein, comme on peut dire qu'aujourd'hui Trump dit des choses de l'Amérique au-delà de ses excès. On le voit bien.
Et cette année même de la mort de McCarthy, il subit une sorte de défaite puisque la Cour suprême prend une décision qui, soudain, autorise la propagande communiste.
Tout à fait. La Cour suprême dit qu'en fait, désormais, on peut prôner le renversement du gouvernement tant qu'il s'agit d'une idée intellectuelle et qu'on ne passe pas à l'acte. Et on voit bien que l'état d'esprit aux États-Unis a considérablement changé en cette fin des années 1950.
On peut considérer ces années-là, au fond, de double façon, soit avec l'inquiétude, l'indignation. La démocratie américaine est capable de créer cela. Et en même temps, les institutions ont tenu bon.
Oui, moi, je pencherais peut-être pour la deuxième option plus optimiste. C'est-à-dire que c'est quand même 1952-54, une période de sursaut démocratique. Parce que finalement, les Américains élisent à la Maison-Blanche un républicain qui est modéré. Ils n'ont pas choisi un conservateur. Et donc, ils ont résolument fait le choix de tourner la page de la chasse aux sorcières. Et parce que les institutions, le Sénat en tête, nouveau Sénat, hein, élu dans une nouvelle composition, qui n'est pas la même que celle de la grande période de McCarthy, va aussi jouer son rôle et mettre un terme à cela. Puis on pourrait rajouter un acteur dont on a peu parlé, la presse, qui, au fur et à mesure du temps, va aussi contribuer à neutraliser le personnage McCarthy.
Après avoir fait sa notoriété dans un premier temps.
Tout à fait. Ça, c'est les aléas de la couverture médiatique. Mais c'est vrai que quand on regarde dans le détail, c'est un peu plus compliqué. Il faudrait aller regarder finement selon les États, selon les sensibilités politiques. Cette presse a deux problèmes quand même. C'est que on est dans une période de patriotisme exacerbé. Donc tout ce qui est critique de l'anticommunisme peut faire passer pour un soutien au communisme. Il y a une sorte de conformisme, hein, finalement. Et puis, on voit bien que cette presse, elle est aussi sensible à son lectorat. Donc elle ne va pas, elle ne braque pas de fond les idées qui dominent à cette époque-là.
Vous pensez que cette histoire que nous venons de retracer pendant une heure, Hélène Arter, celle du McCarthyisme, peut apporter certaines lumières sur les inquiétudes que l'on peut éprouver en face du fonctionnement actuel de la démocratie américaine ?
L'historien est toujours sensible au fait que deux situations correspondent à deux temps, deux époques différentes, mais on voit bien qu'il y a malgré tout des éléments de continuité, des éléments d'explication dans une partie de l'opinion publique américaine.
Sociologie du soutien.
Oui, dans la sociologie du soutien.
Fonctionnement du Parti républicain, oui. Tiraillé entre deux tendances.
Tout à fait, entre des conservateurs et des progressistes. Un rapport au monde aussi, entre des plus internationalistes et des plus isolationnistes. Le rôle des médias aussi. L'époque, c'était la télévision, une certaine presse. Aujourd'hui, c'est plutôt les réseaux sociaux. Et donc, on voit bien qu'il y a, malgré tout, des éléments de comparaison hein, qui peuvent être mis en avant. Et puis aussi ce personnage de l'outsider en politique qui annonce qu'il va tout transformer, tout moderniser, qu'il a la réponse à toutes les questions. C'est quand même une figure récurrente qu'on retrouve à divers moments.
Eh bien, tout cela est à suivre, naturellement. Merci beaucoup, Hélène Arter. Merci. Je citais, chemin faisant, votre très belle biographie consacrée à Eisenhower, le chef de guerre devenu président, qui est paru au début de cette année 2024 aux éditions Talendier avec le soutien du ministère des Armées. Je vous en félicite.
Merci. Merci à eux.
Nous avons fait fond naturellement sur les œuvres d'André Caspi, que nous avons salué chemin faisant. Vous avez avec lui publié en 2012 et réédité récemment chez Texto un livre qui s'intitulait « Les présidents américains ». Naturellement, en ligne, vous trouverez d'autres indications bibliographiques. Je vais aussi citer le très suggestif article d'Yves Viltard qui s'appelle « Le cas McCarthy, une construction politique et savante » dans la revue « Culture et conflit » de 2001, le point de vue d'un politiste qui est éclairant. Et puis, nous avons parlé de Charlie Chaplin, chemin faisant, brièvement. Je signale la grande qualité du documentaire d'Yves Geland et François Aimé qui s'appelle Charlie Chaplin, le génie de la liberté, un documentaire de 2020 qui représente très bien, qui montre très bien les raisons pour lesquelles Chaplin a eu des rapports aussi difficiles avec les États-Unis d'Amérique, notamment avec ceux de McCarthy.
Oh, my name is Joe McCarthy, I'm the leader of the band. I don't play in the concert hall, but on the witness stand. I have the finest orchestra in Washington, D.C. And night and day I love to play McCarthy's symphony. Toodly-doo, try to sue.
Eh bien, vous venez d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Inès Benslama, réalisée par Vincent Abouchard, avec Adrien Gaza à la prise de son, avec Keating Wong à la discothèque, Véronique Jolivet et Émilie Lacot pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel et Patricia Miura pour la documentation.
I tell you more, but I never say it off the Senate floor.